Henri Altiner.
Max Altiner.
Jean-Claude Bloch.
Jean Jacob.
Ernest Kaplan.
Jean-Claude Némé.
Émile Niedermann.
Thomas Schiff.
Henri Ventura.
Samuel Ventura.
Hans Verhoeck.
Voici les noms que nous voulons sortir de l'oubli. Ils étaient tous élèves au lycée niçois du Parc Impérial, alors lycée de garçons, et tous ont été déportés et assassinés dans les camps d'extermination. Pour l'instant, laissons ces jeunes gens être des personnes dont le destin n'a pas encore été fatal. Grâce à nos trouvailles dans les registres des entrées et sorties du lycée, revenons sur leur quotidien banal, sur les détails en apparence dérisoires, mais qui les sauvent du tragique collectif des Juifs exterminés, donnons-leur leur individualité. Nous les rendrons à leur étouffant collectif bien assez tôt. En cause de l'impartialité du temps, qui n'épargne rien ni personne, les traces que nous avons trouvées sont trop peu nombreuses. De ce fait, nous n'évoquons l'histoire que d'un seul élève, Jean Jacob, en espérant faire revivre chacun des autres enfants à travers lui.
Jean Jacob, frère de la célèbre Simone Veil, elle-même scolarisée au lycée de jeunes filles de Nice, née à Nice le 15 novembre 1925. Sa première apparition dans les registres est son entrée au lycée en octobre 1936. Il a alors 11 ans et habite au numéro 1 de la rue Cluvier. Nous l'imaginons, un cartable sur le dos, des habits neufs et propres portés à cette grande occasion. Il est fier d'entrer dans la cour des grands. Le temps est probablement doux en ce mois d'octobre et la lumière du soleil filtre parmi les feuilles des arbres. Sa classe est la 6e A1. Cette année, comme pour beaucoup d'autres, il sera externe. On lui parle sûrement d'emploi du temps, de professeurs différents. Tout un monde qui change, mais un monde excitant.
Puis, si on continue de tourner les pages, sa rentrée du 8 octobre 1937 est mentionnée. Déjà la 5e ? Quoi ? Un an s'est écoulé ? Ce n'est pas la même rentrée que la précédente. Peut-être plus la même envie. Jean a expérimenté le lycée l'année antérieure. Mais c'était plus difficile qu'il ne l'imaginait. Les professeurs sont certainement plus exigeants. Un nouveau rythme de travail s'installe. Il faut être plus autonome. Ses amis grandissent et n'ont plus forcément les mêmes centres d'intérêt. Nous nous représentons ses parents en train de lui faire des recommandations. Il faut qu'il travaille.
Octobre 1939, la 3e. Ce début d'année est marqué par un événement de la plus haute importance. La guerre a débuté. Nous suggérons que Jean, malgré l'inquiétude ambiante, est motivé et prend ses études plus au sérieux. Mais il ne délaisse pas ses amis pour autant, parfois même en transgressant le couvre-feu imposé par ses parents. Sans doute, son visage enfantin disparaît et des traits plus marqués viennent orner son profil. Il grandit et devient un jeune homme plus mature.
Le 15 septembre 1940, Jean rentre en seconde. Que lui réserve cette année ? Dans les registres, nous trouvons sa sortie le 16 février 1941 avec comme motif « Passe en seconde B ». Puis sa rentrée le 17 février 1941. Pourquoi ce changement de classe ? Peut-être que l'ambiance de la classe, la seconde A2, ne lui correspond pas. Les élèves ne s'entraident pas, les professeurs sont stricts et notre élève ne se sent pas à l'aise. Peut-être veut-il changer de série pour le bac qui approche. Nous pouvons aussi imaginer qu'en conséquence du contexte historique, un de ses professeurs ne voulait possiblement pas avoir un juif dans sa classe.
La dernière trace de Jean Jacob dans les registres est sa rentrée en première. Le 1er octobre 1941. C'est une année importante, une des dernières avant le baccalauréat. Puis le grand saut dans le monde du travail. À cette époque, peu d'élèves accédaient à ce niveau, dans le général. Jean devait donc certainement être travailleur et réussir. Nous l'imaginons assis à son bureau, attentif aux paroles des professeurs, le regard alerte et emmagasinant les connaissances.
Le 18 janvier 1943, sa sœur, Simone Jacob, quitte son établissement. La date, sur le registre du lycée de jeunes filles de Nice, semble avoir été corrigée. Il y a une sorte de blanco correcteur sur certaines dates. Peut-être que celle qui les a inscrites a eu une sorte d'hésitation. Toujours est-il que Simone Veil raconte dans son autobiographie que la directrice de l'école l'a convoquée dans son bureau et lui a demandé de quitter l'établissement. Nous savons que Simone Jacob, la future Simone Veil, a été arrêtée le 30 mars 1944 à Nice par deux SS lors d'un contrôle dans la rue. Mais le temps est venu de leur dire au revoir ainsi qu'aux autres et de les rendre à leur collectif. Nous avons fait ce que nous pouvions pour les ramener à la vie, mais l'inévitable épée de Damoclès qui pendait au-dessus d'eux est maintenant descendue au niveau le plus bas, telle une araignée tendant un piège à sa proie.
Plusieurs scénarios sont possibles. Ils ont pu être parqués à la caserne Ovar ou bien l'hôtel Excelsior, pour Jean, comme le raconte sa sœur dans son autobiographie Une vie, ou encore l'hôtel Hermitage, lieu qui ont vu défiler plus d'un millier de Juifs avant leur départ dans les camps. Puis, ils sont certainement partis de la gare de Niceville ou bien de Saint-Roch vers le camp d'internement de Drancy. Nous n'essaierons pas d'imaginer l'inimaginable, leur dur voyage en train dans des wagons à bestiaux sans eau ni nourriture, leur souffrance, leur désespoir, leur peur ou bien leur mort tragique. Nous allons simplement les laisser aux portes du train et évoquer, un peu à la manière de Claude Lanzmann dans son documentaire Sobibor, 14 octobre 1943, 16h, les convois dans lesquels sont partis les enfants et leur date et lieu de mort.
Cependant, les noms des enfants du lycée du Parc Impérial, assassinés dans les camps de mise à mort, ne resteront pas seulement écrits sur un cahier ou sur une liste. Ils vont être dépoussiérés, sortis de l'ombre et ramenés à la lumière. Lors d'un voyage à Paris, Madame Merovka prend connaissance d'une AMEJD, Association pour la mémoire des enfants juifs déportés, à Paris et décide de faire de même à Nice. Il s'agit de trouver les enfants et élèves déportés pour ensuite graver leurs noms sur des plaques commémoratives, affichées sur les écoles correspondantes. Maurice Germain et Féodore Merovka, membres de l'AMEJDAM, vont s'atteler à cette lourde tâche et demander les registres d'entrée et sortie des écoles pendant cette période troublée pour y trouver les noms des enfants, en comparant avec les listes établies par Serge Karsfeld. Les voici, nos élèves, éclairés pour la première fois depuis leur mort, du flash de l'appareil photo de Féo, comme l'appelle affectueusement sa femme, prenant en photo ces pages précieuses. Ce sont certainement des moments émouvants, des êtres renaissant de leurs cendres tels des phénix grâce à ces hommes. De plus, c'est une preuve que non, nous ne les oublions pas. Oui, ils ont une place bien à eux, qui leur est propre dans l'histoire. Ils ont une importance, un impact sur notre présent.
Enfin, nous sommes les dernières à avoir ouvert cette boîte de Pandore. Dans le cadre de notre TPE, nous sommes allées voir les registres de notre lycée en empruntant la même technique que M. Merovka et M. Germain. Armés de nos yeux et de notre patience, nous avons fait défiler les feuilles année après année, nom après nom. Nous exclamons tour à tour: j'ai trouvé un tel ou une telle. Ces documents étaient comme des messagers d'un autre temps, des bouteilles jetées à la mer dont nous devons décoder le message, parfois illisible, parfois incompréhensible, et nous dispensant des informations souvent sommaires. Nous avons ressenti une certaine tristesse, nous demandant ce qu'auraient bien pu devenir ces jeunes qui avaient la vie devant eux, tout autant que la nôtre l'est devant nous, des jeunes qui, au fond, ne sont pas tellement plus différents que nous. Adolescentes du XXIe siècle. Que se serait-il passé si leur sort avait été différent? Si la cruauté de l'homme ne s'était pas déchaînée sur ces innocents? Si nous avions pu les sauver? Nous ne pouvons pas refaire l'histoire avec des si, mais nous aurons au moins essayé de les faire revivre à travers nos paroles, à travers nous.
Jean Jacob, convoi numéro 73, du 15 mai 1944, au départ de Drancy, mort à Reval.
Henri et Max Altiner, convoi numéro 64, du 7 décembre 1943, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.
Jean-Claude Bloch, convoi numéro 61, du 28 octobre 1943, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.
Ernest Kaplan, convoi numéro 60, du 7 octobre 1943, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.
Jean-Claude Némé, convoi numéro 60, du 7 octobre 1943, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.
Émile Niedermann, convoi numéro 76, du 30 juin 1944, au départ de Drancy, mort à Buchenwald.
Thomas Schiff, convoi numéro 72, du 29 avril 1944, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.
Henri et Samuel Ventura, convoi numéro 47, du 11 février 1943, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.
Hans Verroch, convoi numéro 67, du 3 février 1944, au départ de Drancy, mort à Auschwitz.